Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus cet après-midi. Dans ce lieu, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, de chanter ces cantiques et d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter, sans plus attendre, à ouvrir le Saint-Livre, donc dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Et nous allons commencer au verset 1er. Il est écrit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais Jésus donc leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Nous lisons le verset 8 de ce même chapitre. C'est Jésus toujours qui parle, qui va raconter une deuxième parabole. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, 10 pièces d'argent, pourrait dire, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve ?» Et nous allons au verset 11, c'est la troisième parabole de ce chapitre 15, et nous allons lire ce texte en entier. Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ?» Et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Trois paraboles de ce chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Trois paraboles qui vont dans la même direction, qui peuvent être résumées. Alors bien sûr, on ne peut pas résumer la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, on trouve un verset qui pourrait aller dans ce sens. Résumer ce que Jésus a voulu enseigner, puisque, je le rappelle, c'est Jésus qui est en train de parler aux personnes qui étaient là, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il se trouve au chapitre 19 de l'Évangile de Luc et au verset 10. Jésus, lorsqu'il raconte ses paraboles, est entouré, nous l'avons lu, de collecteurs d'impôts. Une autre version dira des gens mal famés se presser autour de lui, avides d'écouter ses paroles. Jésus n'a jamais voulu être entouré de notables. Il ne cherchait pas la haute société. Ce qui l'intéressait, c'était de toucher les cœurs, de s'adresser à ceux qui voulaient bien l'entendre, l'écouter, de pouvoir communiquer ce message et donner cette vision qu'effectivement, il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les pharisiens, et on y reviendra un peu plus tard, eux, lorsqu'ils entendaient Jésus, ils murmuraient, ils critiquaient, ils voulaient en redire. Et je pense que cet après-midi, il peut y avoir plusieurs catégories de personnes. On peut murmurer dans son cœur, on peut être avide d'écouter les paroles de Dieu, on peut avoir envie de voir Jésus intervenir dans notre vie, ou on peut laisser Jésus un petit peu loin. Mais en tous les cas, Jésus nous laisse libres, et c'est à nous de faire la démarche et de prendre la décision qui va nous conduire, bien évidemment, vers Jésus-Christ. Il aurait fallu qu'on prenne beaucoup de temps pour partager ces paraboles. Mais j'ai souhaité quand même que nous puissions lire ce verset de la première parabole qui parle de la brebis perdue, parce qu'on l'a vu ensemble, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus-Christ, d'aller chercher ce qui était perdu. À un autre moment dans la parole de Dieu, il va employer une autre expression qui nous montre à quel point Jésus était soucieux d'aller chercher ceux qui avaient pris des chemins de traverse, ceux qui ont pris des chemins parallèles, ceux qui ont pris des mauvaises directions. À un moment donné, lorsqu'il va expliquer son ministère, il va prendre l'image du bon berger, ce bon berger qui va pour prendre la brebis, et c'est la même pensée qu'il y a dans la parabole du fils prodigue, cette parabole sur laquelle nous allons nous arrêter. Jésus pourra dire, mais il faut que je les amène. Il y a des brebis qui sont à l'extérieur, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, et la pensée de Jésus-Christ, c'est « il faut que je les amène ». J'ai encore d'autres brebis, c'est Jean chapitre 10 verset 16, « j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène ». C'est un impératif pour Jésus. Lorsqu'il était sur la croix, ça a été un impératif. Et cet après-midi, c'est ce même impératif qui presse son cœur. Parce que Jésus sait, comme cela a été présenté dans les chants, que c'est lui la solution pour votre vie. C'est lui qui peut bouleverser, changer votre existence. Et lorsqu'il dit « il faut que je les amène », ce n'est pas pour bousculer quelqu'un cet après-midi, ce n'est pas pour violenter ce que vous êtes, mais c'est pour expérimenter. Venir, que vous puissiez vivre ce que cet enfant prodigue a vécu, de savoir ce qu'est que d'être ramené dans la présence d'un Père qui vous aime, qui vous chérit et qui vous attend. La parabole que j'aimerais partager, étayer davantage, c'est, vous l'aurez compris, c'est celle du fils prodigue. Il y a un détail, c'est pas ce détail sur lequel nous allons nous arrêter cet après-midi, mais si j'ai le temps, j'aimerais bien que nous puissions y revenir à la fin, c'est qu'il y a cette réalité, nous l'avons lu ensemble. Jésus, et je vous le rappelle, c'est un enseignement, il dit cela à la foule, aux pharisiens. Il va prendre cet exemple en disant qu'un homme avait deux fils. Un des deux fils a demandé l'héritage, on le sait, on l'a lu. Mais la Bible nous dit que le père leur partagea son bien. On comprend que l'héritage était disponible pour les deux fils. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir me voir à la fin. On comprend que le père, avait mis à disposition l'héritage pour les deux fils, mais qu'un seul des deux fils a pris l'héritage pour aller faire sa vie. Le deuxième fils, lui, est resté. Et j'aimerais qu'on ait le temps de pouvoir y revenir. Mais on va s'attarder un instant sur le fils cadet, le plus jeune, qui voulait faire son expérience. C'est un texte, je pense, que vous connaissez aussi bien que moi. On y voit là le cœur de l'homme qui veut faire ses propres choix, son propre parcours. La Bible nous dit que peu de jours après, le plus jeune des fils était résolu dans son cœur. Et on rencontre beaucoup de personnes qui sont résolues, qui savent, qui sont déterminées, qui ont une seule chose en tête, c'est de vivre leur vie. Et on ne voit pas le Père l'en empêcher, de la même manière que cet après-midi, on veut vous dire que Jésus ne sera jamais là pour vous empêcher, ne sera jamais là pour prendre une décision à votre place. Jésus présente, l'Évangile est annoncé, c'est à chacun d'entre nous de choisir, d'accepter ou de refuser. Toujours est-il, c'est que ce jeune homme, à un moment donné, il va y avoir une fracture dans son quotidien. Il va y avoir, on pourrait dire même deux choses. Il n'a plus d'argent et il y a la famine. Dans le texte, c'est un petit peu collé, mais on comprend que c'est deux choses. Vous savez, aller dans le monde, vivre dans le monde, ça nous conduira toujours à une famine, toujours. On peut avoir de l'argent de côté, et peut-être que la Bible nous dit que la famine survint quand il n'avait plus d'argent. S'il avait eu encore de l'argent et que la famine était là, tôt ou tard, il y aurait eu la famine quand même. S'il n'y avait pas eu la famine, et je le redis parce qu'il faut comprendre que c'est Jésus qui parle pour notre enseignement, s'il n'y avait pas eu la famine de suite, il aurait eu plus d'argent. La famine, c'était ce qu'il y avait dans son cœur, bien-aimé. La famine, c'était la photographie de son âme. Il avait essayé de se persuader qu'il pouvait s'en sortir, il avait essayé de se persuader qu'il n'avait pas besoin du Père. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui se persuadent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La réalité, c'est que dans le monde, on ne trouvera que la famine. La réalité, c'est qu'à un moment donné ou un autre, on est gagné par la sécheresse. Et ce jeune homme, c'est ce qu'il a expérimenté, c'est ce qu'il a vécu. Et pour nous, qu'est-ce que ça peut être, la famine? On peut connaître la famine de paix. On peut connaître la famine de joie, plus de joie dans la vie. On peut connaître une famine d'espérance, on espérait tellement en telle et telle situation, on a mis tout en place pour que dans notre vie nous puissions avoir ces choses, vient la famine d'espérance, la famine de restauration. On pensait qu'on allait pouvoir être restauré, on pensait que en prenant une direction, en changeant de travail, en changeant de maison, en changeant de conjoint, ça pouvait aller mieux. La famine de restauration, ça ne peut pas aller mieux. Et ce jeune homme, au travers de ce qu'il a vécu, c'est ce que Jésus veut nous expliquer à chacun d'entre nous cet après-midi. La photographie de son cœur, ce qu'il avait espéré, se révèle. La noirceur de son cœur se révèle. La sécheresse de son cœur se révèle. Et la Bible va aller plus loin parce qu'il va nous dire que ce jeune homme va s'attacher à l'un de ses citoyens. La Bible nous dit, et c'est le verset 15 qui nous dit du chapitre 15, il alla se mettre au service de l'un des habitants. Littéralement, c'est il va s'attacher. Littéralement, c'est il va se coller. C'était un juif. Il s'est associé avec quelqu'un d'étranger. L'horreur du péché, bien-aimé, c'est de nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Le péché nous trompera toujours. La famine nous amènera toujours dans un état misérable, inférieur. Connaître le monde nous amènera toujours à nous attacher au monde. Et la Bible nous dit que si on n'est pas avec Dieu, c'est qu'on est sans Dieu. Si on n'est pas dans la lumière, c'est qu'on est dans les ténèbres. Ne pas s'attacher à la lumière, ça veut dire qu'on est attaché aux ténèbres. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Ce jeune homme va s'attacher aux ténèbres. Et si j'arrêtais le message maintenant, Bien que c'était juste un rappel, je le pense, cet après-midi, ça serait bien triste. Mais il y a quand même une pensée centrale et il était nécessaire qu'on puisse parcourir ce texte pour que vous puissiez voir ce que j'aimerais vraiment, vraiment que vous puissiez retenir, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que ce jeune homme ne s'est pas arrêté là. Ce jeune homme n'a pas stoppé sa vie ainsi. Il y a des possibilités avec Jésus-Christ. Votre vie peut changer avec Jésus-Christ. Et on le sait, on l'a lu, la Bible nous dit que ce jeune homme va rentrer en lui-même, qu'il va prendre conscience de ce qu'il a fait, qu'il va réfléchir sur son état, c'est ce que nous appelons la repentance. Il va comprendre qu'il a mal agi, qu'il aurait jamais dû faire cela. Et il va se dire, mais je vais retourner chez mon père. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est ce que nous avons lu au début, à l'évangile de Luc, au chapitre 2, au chapitre 15, c'est le verset 2. Vous vous souvenez quand les pharisiens ont murmuré contre Jésus-Christ, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit, mais cet homme, Jésus parlait, il y avait des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, tout un tas de personnes. Les pharisiens ont dit, mais cet homme, lui, il accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et c'est ce que ce jeune homme avait compris par rapport à son père. Et c'est cet après-midi ce que vous devez saisir. Peu importe les chemins que vous avez pris, bien-aimé, peu importe les directions que vous avez prises, peu importe à qui vous vous êtes attaché dans votre vie, il y a cette réalité que vous devez prendre pour vous d'une manière personnelle. Oui, Jésus vous accueille. Oui, Jésus veut vous accueillir cet après-midi. Le jeune homme était dans la pire misère. La famine représentait son cœur, son âme. Mais il savait une seule chose, c'est que s'il rentrait à sa maison, son père allait l'accueillir. Je ne sais pas si on comprend à quel point c'est merveilleux. Ce jeune homme ne s'est pas dit « je vais téléphoner à mon frère ». Je vais lui dire, écoute mon frère, je m'excuse, héberge-moi un mois, deux mois, le temps que je puisse travailler, que je mette des sous de côté. Il aurait pu le faire. Il aurait pu dire à son frère, voilà, écoute, prends la part de ton héritage que tu n'as pas touché, envoie-moi 1 000 euros le temps que je m'en sorte. Ce jeune homme aurait pu appeler un de ses amis qu'il avait dû se faire lorsqu'il avait de l'argent et il aurait pu dire, mais voilà, écoute, je suis dans la misère. « Viens-moi en aide. » C'est pas ce que ce jeune homme a fait. Ce jeune homme aurait pu appeler un des serviteurs de son père en disant « Mais voilà, je suis dans le besoin, parle pour moi à mon père. » C'est pas ce qu'il a fait. Ce jeune homme avait cette certitude dans son cœur que peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a traversé, peu importe la noisseur de sa vie, peu importe la famine qui régnait dans son âme, peu importe la famine de paix, de pardon, d'espérance qu'il y avait, il savait que s'il rentrait, il allait être accueilli. Il y a quelqu'un qui veut vous accueillir, vous savez, cet après-midi. Il y a quelqu'un qui vous attend cet après-midi. Il y a quelqu'un, et on pourrait même aller jusqu'à dire, il n'y a quelqu'un qui n'attend que ça. Qui vous regarde chaque jour, qui chaque fois que la parole est annoncée, chaque fois que vous êtes chez vous, qu'il y a dans votre cœur ce résonnant, cette résonance d'amour, où vous entendez que Jésus vous attend, que Jésus vous appelle. Chaque fois que vous êtes là, que vous entendez que Jésus est mort pour vous pardonner, c'est cet appel d'amour, c'est ce Père qui vous attend, c'est Jésus qui veut vous accueillir. Les pharisiens aimeraient bien vous dire que vous n'avez rien à faire avec Jésus-Christ. Le diable aimerait bien vous dire que c'est trop tard, qu'il ne va pas vous accueillir. Le diable aimerait bien vous dire que votre place est de rester attaché aux ténèbres, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de l'Évangile, ce n'est pas la réalité du sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est pas la réalité que Jésus-Christ veut exprimer dans votre vie. La réalité, c'est peu importe ce qui s'est passé, peu importe les chemins de traverse que vous avez pris, peu importe les directions, Jésus vous accueille. Jésus est là, il vous attend. Ne dites pas, on est allé trop loin, je suis allé trop loin dans le péché. Ce jeune homme a dilapidé la fortune. Plus de dignité, plus d'identité. Il s'est collé aux ténèbres. Il a fait des choses dans sa vie, si peut-être un an auparavant, on lui avait dit, tu vas faire ça, il aurait rigolé aux éclats. Si son frère lui avait dit qu'il allait donner à manger aux cochons, si son frère serait venu lui dire, écoute, tu vas travailler pour un des habitants d'une contrée lointaine qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le péché, il aurait rigolé, il aurait dit, mais ça ne va pas, tu as perdu la raison. Si vous avez fait ça, et peut-être aujourd'hui vous êtes dans une situation, si un an auparavant, on vous l'avait dit, vous ne l'aurez pas cru. L'horreur du péché, c'est de vous conduire à la mort. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Les pharisiens murmuraient ce jour-là. Les pharisiens se moquaient de Jésus. Les pharisiens se moquaient de ceux qui entendaient Jésus, qui écoutaient Jésus, en disant « Mais cet homme, lui, il accueille des gens de mauvaise vie. Jésus est venu donner sa vie sur le bois de la croix. Son sang a coulé, a été versé pour que nous puissions savoir, pour qu'il y ait ce cri de victoire dans l'humanité entière qui retentit encore cet après-midi pour dire qu'il veut nous accueillir. Il faut que des brebis viennent à moi. Il faut que j'aille les chercher, dira Jésus. Et cet après-midi, c'est cela qu'il y a dans son cœur. Il faut que vous sachiez que je peux vous accueillir, que je veux vous accueillir. Vous savez, lorsque nous lisons « accueillir », la signification, c'est donner accès à soi-même. C'est Jésus qui se donne accès. C'est Jésus qui se donne pour chacun d'entre nous. C'est Jésus qui s'offre. Et le jeune garçon a compris cela. Il a expérimenté ce que le psalmiste a pu dire un jour, « L'Éternel accueillera ma prière ». Vous croyez que ce jour-là, Dieu a accueilli sa prière? Est-ce que vous croyez que cet après-midi, Dieu peut accueillir votre prière? Votre prière de repentance? Votre prière d'engagement? Est-ce que vous croyez que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur le bois de la croix pour que lorsque vous allez lui adresser une prière, il rejette votre prière? Est-ce que vous croyez réellement que celui qui est l'inventeur de l'amour, celui qui a créé l'amour parfait, celui qui a tout donné, est-ce que vous croyez que celui qui a tout fait vous rejettera lorsque vous allez venir dans sa présence? Oui, l'Éternel veut accueillir la prière de quelqu'un, la prière de repentance, une prière d'engagement. Seigneur, oui, je veux revenir à toi. Et vous savez, dans ce texte, le Père, c'est l'image de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, c'est l'image, l'empreinte du Père. Et de la même manière que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il attendait avec amour, avec compassion, avec compréhension, avec délicatesse, le Père attendait son Fils. Jésus vous attend. Jésus vous attend. J'aimerais vous dire, et c'est le verset 24 qui nous dit ça, c'est le Père qui va s'exprimer. Il va dire, mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. La paix de Dieu est immédiate. La restauration est immédiate. La bénédiction est immédiate. Mon Fils que voici. Il n'a pas dit celui qui est parti. Il n'a pas dit, écoute, je vais attendre un peu avant de t'appeler mon fils. Ça a été mon fils, mon bien-aimé, celui que j'aime. La restauration est immédiate. Le sang de Jésus-Christ est encore suffisant cet après-midi pour purifier, pour vous purifier de tous vos péchés. Il y a ce texte, je le lis pour vous dans la version Parole vivante. C'est par ce Fils, c'est par Jésus-Christ et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Toute offense, le Fils a été restauré, le Fils a été béni, le Fils a compris qu'il pouvait être accueilli de nouveau par son Père. Je terminerai en vous parlant un instant du Fils cadet. Vous savez, Jésus, je l'ai dit volontairement tout au long de ce message, parle, enseigne au travers des paraboles, et il y avait les pharisiens. Il y avait les pharisiens qui étaient présents. Ceux qui pensaient qu'ils avaient tout compris, ceux qui pensaient qu'ils savaient tout, qu'ils n'avaient pas besoin de conseils. Le deuxième fils avait l'héritage disponible. Le deuxième fils avait tout pour être heureux, pour jouir de cet héritage. Mais il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre la relation que Dieu veut. La relation que son Père veut, que Dieu veut pour nous. Et il y a cette phrase terrible qui, comme l'a dit Michael, il y a des choses qui sont terribles quand il a présenté ce chant. Il y a des réalités qui sont terribles. Mais notre responsabilité, c'est de les dire aussi. Et la Bible nous dit que le fils cadet, le grand frère, il va se mettre en colère et il n'a pas voulu rentrer. Il n'a pas voulu rentrer. Et c'est son père qui va sortir et il va parler. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, ce frère, le grand fils. Est-ce que d'après vous, il est rentré après ? Est-ce qu'il est rentré ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et vous savez, quelque part, alors je ne pense pas aller au-delà de ce qui est écrit, et je le redis, et vous allez comprendre pourquoi j'ai répété cela tout le long. Les pharisiens écoutaient. Et nous qui sommes là, quelque part, si Jésus n'a pas terminé, parce que c'est Jésus qui n'a pas terminé la parabole, c'est Jésus qui n'a pas voulu dire qu'est-ce qu'il en est venu de ce grand frère. Est-ce que ça ne peut pas être parce que c'est à nous de la terminer ? C'est à vous cet après-midi. Est-ce que ça ne pourrait pas être parce que c'était aux pharisiens de comprendre que c'était à eux de la terminer ? Est-ce que vous comprenez cet après-midi, si vous êtes dans l'état du grand frère, que vous avez tout à disposition, vous avez entendu maintes et maintes fois parler du Seigneur ? Vous avez entendu maintes et maintes fois parler de ce que Jésus-Christ était capable de faire, mais vous vous mettez toujours en colère parce que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Vous restez toujours à l'extérieur de la porte. Est-ce que cet après-midi, vous ne voulez pas terminer d'une certaine manière cette parabole en décidant de rentrer, vous réjouir ? Vous savez, les trois paraboles se terminent par des réjouissances. Les trois. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Lorsque la brebis est retrouvée, il y a une fête. Lorsque la pièce d'argent est retrouvée, il y a une fête. Cet après-midi, dans le ciel, vous savez qu'il peut y avoir une fête ? Est-ce que vous savez que les anges peuvent se réjouir de ce qu'une âme se confie en Dieu ? Est-ce que vous croyez cet après-midi qu'il peut y avoir encore une fête, que la porte peut être encore ouverte pour quelqu'un, pour qu'il puisse terminer cette parabole en disant « Mais j'en ai marre de me mettre en colère, j'en ai marre d'être aigri par rapport à la vie, j'en ai marre d'être aigri par rapport aux circonstances, par rapport aux autres, parce que Jésus-Christ vous interpelle d'une manière personnelle cet après-midi. » Et toi, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire finalement ? Qu'est-ce que tu comptes faire finalement ? Est-ce que tu vas encore devoir attendre tellement de prédications qui vont te dire que Jésus t'accueille ? Parce qu'un jour, la Bible nous dit que cette porte sera fermée. Oh, il y en a qui vont être dans les réjouissances, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui vont connaître la joie, la félicité, mais il y en a d'autres qui ne vont pas la connaître. Alors, vous pouvez lire, je vais terminer ces instants, si vous voulez méditer, lisez 1 Pierre chapitre 1er. Il est question de cet héritage qui est là. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts et prier quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es capable de faire de cette invitation, cette réalité que tu nous exposes. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour que nous puissions comprendre que tu veux nous accueillir, que tu veux nous prendre dans tes bras d'amour, que tu nous regardes tous les jours, à chaque instant, pour voir si enfin on va venir vers toi. Quelle grâce, quelle bénédiction, notre Dieu. Merci, merci parce que tu nous dis qu'il y a d'autres brebis qui vont rentrer, qu'il faut que tu les ajoutes, que tu ailles les chercher. Et nous comprenons que ton amour est sans fin, sans limite. Et cet après-midi, nous voulons te bénir pour cela, prier pour ceux qui ont pris tellement de chemins de traverse, ceux qui sont partis tellement loin de toi. Seigneur, qu'ils puissent comprendre que tu veux les accueillir aujourd'hui, qu'ils peuvent rentrer chez toi, à la maison, qu'ils peuvent venir vers toi parce que tu n'es pas venu pour juger, pour condamner, tu es venu pour sauver. Et nous croyons que cet après-midi, c'est encore un moment que tu as choisi pour sauver. Oui Seigneur, il y a une fête qui se prépare dans le ciel et nous te bénissons pour cela. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as prévu de faire. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.